Oui, je vais prendre le micro. Bonjour. Alors, il est 3h15, donc ça va. Le temps s'arrête à l'église, en fait, hein, c'est ça. Même les secondes s'arrêtent. Le livre de Josué, chapitre 2, après l'excellent message de Pierre la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas écouté, que vous n'étiez pas là, écoutez-le, il est génial. C'est normal que ça s'éteigne, tu peux le remettre? Merci, super. Avant qu'on ouvre la Bible, je voulais vous planter un petit peu le décor, parce que la géographie parle aussi, puis c'est important quand on lit la Bible d'avoir des repères visuels un petit peu. Donc déjà, je voulais vous montrer un petit peu le contexte dans lequel se passe ce livre de Josué, ce qu'on va lire, et en particulier chapitre 2. Donc vous voyez, c'est le désert de Judée. C'est magnifique, avec ce coucher de soleil. Voilà. Donc je vous rappelle un petit peu où on est. Donc c'est Israël, bien sûr. Vous avez là-haut le lac de Tibériade. Le Jourdain qui descend du lac de Tibériade jusque dans la mer Morte. Ici, par là, on a le mont Nebo, là où Moïse a contemplé le pays, mais sans pouvoir y entrer. Et puis, c'est là où se trouve Jéricho, où les Israélites vont passer. Après, les flèches, ne regardez pas trop, c'est la suite, hein, du livre de Josué. Mais. J'en mets une autre, voilà. Donc on retrouve le Jourdain. On a ici une ville qui s'appelle Chittim. On va en parler tout à l'heure. C'est là où les Israélites, on les retrouve en train de camper. Ils sont venus du mont Nebo qui était par là et ils sont à Chittim. Et Jéricho se trouve ici, là où on va donc passer notre chapitre 2. Pour vous repérer, Jérusalem est là. Donc, ça s'appelle pas encore Jérusalem à l'époque, c'est Jébuse. Voilà. Donc, c'est la plaine du Jourdain, une plaine désertique, le désert de Judée qui est par là, et puis les montagnes de Moab qui sont par là, un peu plus au sud. Donc, Jéricho. Voilà une vue un peu actuelle de Jéricho. Donc, juste pour vous montrer le désert, on est vraiment en plein désert. Là, c'est la vallée du Jourdain qui est ici. Le Jourdain passe là et descend vers la mer Morte qui est vers la droite, là, sur la diapo. Et ici, on a les montagnes de Moab. Donc le mont Nebo doit être quelque part un petit peu par là, sur la droite, là où Moïse est mort. Voilà de nouveau Jéricho. Jéricho actuel, qui est une ville arabe. Donc vous voyez qu'on est en plein désert. Il y a du désert, oups, partout autour. Mais il y a quand même, je vais y arriver, mais il y a quand même de la végétation un petit peu. Parce qu'en fait, Jéricho est une oasis. Il y a des sources. Notamment, il y a une source qui coule toujours, qui veut plus venir. Voilà. Donc c'est une source qui coule toujours et qui s'appelle la source d'Élysée. Alors c'est intéressant de savoir que cette source s'appelle la source d'Élysée parce qu'en fait, le lieu, je reviens un petit peu en arrière, voilà, le lieu où se trouvent les événements qu'on va voir aujourd'hui, en fait, sont dans cette zone qui est une zone hyper importante, où il se passe plein de choses dans la Bible. C'est là, on va voir donc, enfin on verra plus tard, que les Israélites ont traversé le Jourdain pour entrer dans le pays d'Israël, dans la future Judée. Et puis, c'est dans cette zone-là que Jean-Baptiste baptisait aussi, tout près de la mer Morte. Tout près d'ailleurs de ce qui se situe par là, c'est le Qumran, là où on a découvert les manuscrits de la mer Morte, hein, si ça vous parle. Donc c'est là, dans cette zone-là, que Jésus a été baptisé. C'est de là qu'avant cela, Élie avait été enlevé au ciel. d'où une zone vraiment importante, et c'est pour ça qu'une des sources de Jéricho s'appelle la source d'Élysée. Voilà, donc c'est le désert, mais le désert, comme la Bible l'a dit, refleurit. En fait, ça c'est le côté un petit peu israélien, où il y a des palmeraies avec des dates énormes. Donc à Jéricho, ben, bien sûr, il y a des ruines, il y a des ruines très anciennes. Jéricho est considérée comme une des plus vieilles villes du monde. Donc il y a pas mal de ruines qui sont toujours en exploration. Pas trop, parce qu'effectivement, c'est dans les territoires qu'on appelle palestiniens, et donc il y a peu de financement, etc. Mais bon, on n'a pas encore retrouvé la tour de Rahab, mais la maison de Rahab, mais bon. Voilà le Jourdain. Alors, vous voyez que ce n'est pas une grande rivière, le Jourdain. Hein, c'est une petite rivière, mais alors, par moment, quand ça déborde, ça déborde. Ça coule bien au-dessus des marches, etc. Hein, ça déborde sur ses rives. Et alors, c'est ce qui est assez intéressant. Là, ici, la photo est prise donc, du côté israélien. Et puis là, en fait, c'est la Jordanie. Donc vous voyez qu'à 10 mètres, on a la Jordanie. Et la frontière, c'est cette espèce de ligne d'eau. voilà. Donc, et ça, c'est pris dans la région où Jean baptisait, hein, et où Jésus donc, a été baptisé. Voilà. Bon, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer un peu la mer morte, qui est juste après, un tout petit peu après. Et puis, si vous venez un jour en Israël avec nous, vous pourrez lire le journal sans bouger dans la mer. La mer est tellement salée, vous voyez tout le sel qu'il y a sur le bord. Hein. La mer est tellement salée qu'elle vous porte et qu'il n'y a pas besoin de faire de mouvement. Voilà, revenons à notre contexte géographique. Donc c'est toujours Jéricho. Et vous voyez le désert, les montagnes derrière. Et dans ces montagnes, il y a beaucoup d'endroits creusés avec des grottes, etc. Où justement on va lire que les espions peuvent se cacher. C'est dans des grottes un petit peu comme celle-ci que les manuscrits de la mer morte ont été trouvés. Voilà, alors on peut maintenant ouvrir nos Bibles pour lire. Donc Josué au chapitre 2. Alors, il n'y a que 24 versets, donc je vous propose qu'on le lise, puisque certains n'ont pas fait leur devoir. On va le faire ensemble. Josué, fils de Noun, envoya secrètement de Chittim deux explorateurs en leur disant « Allez examiner le pays, notamment Jéricho. » Ils s'en allèrent et arrivèrent dans la maison d'une courtisane appelée Rahab, où ils prirent leur gîte. On l'annonça au roi de Jéricho en disant « Des hommes sont venus ici cette nuit d'entre les enfants d'Israël pour explorer la contrée. Et le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Livre les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout ce pays qu'ils sont venus. » Mais la femme avait emmené les deux hommes et les avait cachés. Elle répondit, « Il est vrai, ces hommes sont venus chez moi, mais j'ignorais d'où ils étaient. » Comme on allait fermer les portes de la ville à la nuit, ces hommes sont sortis. Je ne sais où ils sont allés. Mettez-vous vite à leur poursuite, vous pourrez les atteindre. Or, elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin étalées par elle sur le toit. Les gens du roi les poursuivirent dans la direction du Jourdain, vers les guets. Et l'on ferma les portes aussitôt qu'ils furent sortis pour les poursuivre. Avant que ses hôtes fussent couchés, Rahab s'en vint les trouver sur le toit et leur dit « Je sais que l'Éternel vous a livré ce pays que vous nous avez terrifié, que tous les habitants du pays ont perdu courage à votre approche. Car nous avons appris comment l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer des joncs quand vous êtes sortis de l'Égypte et aussi ce que vous avez fait aux deux rois amoréens de l'au-delà du Jourdain, à Sihon et Og, que vous avez exterminés. » Nous l'avons appris et le cœur nous a manqué et personne ne s'est plus senti de courage devant vous. C'est qu'aussi l'Éternel, votre Dieu, est Dieu en haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre. Et maintenant, jurez-moi par l'Éternel, puisque j'ai agi charitablement avec vous, qu'à votre tour, vous agirez avec bonté envers la maison de mon père et m'en donnerez un gage certain, que vous épargnerez mon père et ma mère, mes frères et mes sœurs, et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous préserverez de la mort. » Les hommes répondirent, « Notre vie répondra de la vôtre, si vous ne divulguez pas notre entretien. Alors, quand l'Éternel nous aura livré ce pays, nous agirons à ton égard avec bienveillance et loyauté. » Elle les fit descendre par la fenêtre au moyen d'une corde, car sa maison était contiguë au rempart, et c'est dans le rempart même qu'elle demeurait. Et elle leur dit, « Pour ne pas être atteints par ceux qui vous poursuivent, dirigez-vous du côté de la montagne, restez-y cachés 3 jours jusqu'au retour de ceux qui vous poursuivent, puis vous vous remettrez en route. » Et les hommes lui dirent, « Voici comment nous nous acquitterons du serment que tu nous as fait prêter. Quand nous entrerons dans la contrée, tu attacheras ce cordon de fil écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Et tu réuniras dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Dès lors, quiconque franchira les portes de ta maison pour aller au dehors sera responsable de sa perte, et nous en serons innocents. Mais quiconque restera avec toi dans la maison, son sang retombera sur nos têtes si l'on porte la main sur lui. » Si toutefois tu révèles le présent entretien, nous serons également dégagés du serment que tu nous as fait prononcer. » Elle répondit, « Qu'il soit fait selon vos paroles. » Elle les congédia, et ils s'en allèrent, et elle attacha le cordon écarlate à la fenêtre. Pour eux, ils se dirigèrent vers la montagne, où ils demeurèrent 3 jours cachés, jusqu'au retour des hommes envoyés à leur poursuite. Ceux-ci avaient exploré toute la route et ne les avaient pas trouvés. Alors, les deux hommes redescendirent de la montagne, repassèrent le Jourdain et vinrent trouver Josué, fils de Noun, à qui ils firent part de toute l'aventure. Et ils dirent à Josué, « Assurément, l'Éternel a livré tout ce pays entre nos mains et déjà tous ses habitants tremblent devant nous. » Amen. Seigneur, merci de nous parler par ta parole. Que nos yeux, nos cœurs, nos intelligences soient éclairés. Quand nous ouvrons ta parole, Seigneur, elle est vivante, elle est éternelle et elle nous change. Alors Seigneur, ce matin, travaille encore nos cœurs et nos vies par cette parole. Amen. Richard Assouline me faisait souvent remarquer, quand ils étaient avant leur déménagement, régulièrement, il me faisait remarquer combien pratiquement tous les dimanches, les lectures, les messages, les prophéties ou ce qu'on vivait le dimanche étaient en lien avec ce qu'on appelle la paracha de la semaine, c'est-à-dire la lecture de semaine, vous savez, dans les synagogues. Et c'est vrai que c'est depuis, j'y suis attentif et c'est très régulièrement, effectivement, pour ne pas dire toujours, qu'il y a un lien. Alors que la lecture, c'est une lecture suivie, et nous, j'allais dire, on se laisse conduire par le Saint-Esprit, eh bien, souvent, c'est assez en lien, en relation. Et ça ne manque pas aujourd'hui, j'y ai réfléchi tout à l'heure. Cette semaine, dans les synagogues, on lisait la paracha Noé, Noir, qui parle d'une destruction massive. Mais une famille va être sauvée. Et de cette famille, Dieu va faire tout un tas de choses. Et on va lire quelque chose qui ressemble bien à ça, et qui est vraiment en lien. Alors, je voudrais relever du récit de ce matin qu'on vient de lire, qui se passe donc à Jéricho, 3 questions et 2 enseignements. La première question, elle est un petit peu anecdotique, c'est celle de qui était Rahab ? Et surtout de pourquoi les 2 espions israélites sont allés chez elle. Nos traductions françaises de ce texte et également le Nouveau Testament présentent Rahab comme une prostituée. La traduction second révisée en français est d'ailleurs assez abrupte. Elle dit clairement, je vous cite la traduction, « Ils entrèrent dans la maison d'une prostituée et ils y couchèrent. » En lisant ça... On peut légitimement se poser des questions. Et la question de la probité de ces 2 espions. Mais que sont-ils donc réellement venus faire à Jéricho? De l'espionnage ou du libertinage? La traduction du rabbinat français, c'est celle que j'ai lue, décrit Rahab comme une courtisane, ce qui est certes assez proche comme définition, et donc fait d'elle une femme de mauvaise vie. D'ailleurs, Rahab en hébreu, Rahav même, en hébreu, ça signifie large. Et effectivement, Rahab devait avoir l'esprit assez large, assez ouvert. Mais ce terme de courtisane lui donne aussi un rang plus élevé. Rahab n'était pas une prostituée des rues. C'était pas une pauvre fille perdue, etc. La tradition juive la décrit également comme une aubergiste. Cela explique pourquoi sa maison était dans les remparts et tout près de la porte de la ville. Ainsi, elle pouvait accueillir des étrangers, des gens de passage, et leur offrir le gîte et le couvert. C'est pour ça qu'elle pouvait loger des gens. Nos deux espions sont donc saufs dans leur intégrité. La deuxième question que je voulais relever ce matin est d'une importance plus grande. Le récit nous montre comment le mensonge et la dissimulation de Rahab ont permis aux espions de s'enfuir, et plus encore à Rahab, nous le verrons dans les semaines qui viennent, les chapitres suivants, d'être sauvée, elle et sa famille, d'être les seules à échapper à la mort, et par la suite même d'être intégrées au peuple d'Israël. Alors est-ce que ce passage des Écritures légitime le mensonge? La fin justifie-t-elle les moyens? Voire même la mauvaise vie de Rahab? Non, le péché reste le péché. Le mensonge reste dénoncé dans le commandement d'Exode 20 qui dit « Tu ne porteras pas de faux témoignages ». Mais il semble qu'il puisse y avoir une exception rare à ce commandement, celle où la vie et la mort sont en jeu. Et là, en méditant là-dessus, je ne pouvais pas m'empêcher de penser en particulier à nos prédécesseurs protestants des Cévennes et du plateau ardéchois, qui, pendant la guerre, ont caché tant de Juifs au péril de leur vie. Est-ce qu'ils ont usé de dissimulation? Oui. Est-ce qu'ils ont menti lorsqu'ils étaient contrôlés par les nazis ou par la police française? Oui. Mais en faisant ainsi, ils ont sauvé la vie à des générations entières d'Israélites. C'est de ce même genre de sauvetage que Rahab s'est fait l'héroïne. Franchement, j'espère que nous n'aurons jamais à mettre ça en pratique, à jouer les héros de cette façon. Mais l'actualité bien triste de ces jours-ci peut nous faire douter et nous laisser croire que ce qui a été, c'est ce qui sera, car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors je prie que si cela arrive, nous soyons tous à la hauteur de ceux qui nous ont précédés, à commencer par Rahab, la prostituée. La troisième question est encore d'une importance plus grande, et la réponse est plus complexe. Le texte nous dit que tous les habitants de Jéricho et des contrées avoisinantes étaient morts de trouille devant l'approche des Israélites, car ils avaient appris comment avaient été exterminés les peuples amoréens et leurs rois. Alors là encore, est-ce que la Bible justifie ces massacres? C'est une question légitime à se poser, car la conquête de la terre promise dans les chapitres suivants du livre de Josué, on va les voir, va amener la réplication de tels événements. Dieu va même reprocher à un moment à Israël de ne pas aller jusqu'au bout en préservant des peuples qui avaient pourtant été voués à l'interdit, ce qui sera d'ailleurs pour Israël un piège et l'entraînera parfois dans l'idolâtrie. Alors je n'ai pas la prétention d'aller au fond de la réponse en si peu de temps, mais je dirais deux choses. D'abord qu'il faut faire attention de ne pas faire d'anachronisme. Les temps ont changé et on ne peut pas transposer des événements qu'on a lus d'il y a 3 500 ans en les comparant sans réfléchir à la réalité d'aujourd'hui. Je dirais surtout que pour bien comprendre ce qui se passe dans le livre de Josué, il faut revenir un petit peu en arrière dans nos Bibles. Revenons donc à il y a 4 000 ans. Au moment où Dieu promet à Abraham de lui donner, à lui et à sa descendance ce pays de Canaan qui deviendrait le pays d'Israël. À un moment, Dieu va dire en quelque sorte à Abraham, mais attends, ne t'emballe pas trop vite. Et je lis là Genèse 15. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, l'Égypte. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. À la quatrième génération, ils reviendront ici, en Canaan, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Et je vous relis cette dernière phrase. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. En fait, ce texte nous dit que si Israël a dû attendre 400 ans avant d'entrer dans le pays promis, s'il a subi 400 ans d'esclavage et de souffrance en Égypte, c'est parce que Dieu patientait et attendait la repentance des peuples cananéens. Leur péché n'était pas encore à son comble pour justifier du terrible jugement qui les attendait. Il faut savoir que les peuples cananéens étaient des peuples idolâtres, extrêmement dépravés. Ils adoraient, entre autres, Dieu, le dieu Moloch, un dieu terrible. Ce dieu Moloch, un dieu à qui ils sacrifiaient des enfants en les faisant passer par le feu. Ainsi, lorsque Dieu fait sortir Israël de l'esclavage d'Égypte, c'est que le comble a été mis au péché des Cananéens et que la mesure de la patience de Dieu pour eux a été atteinte. J'ai perdu ma ligne. Israël est donc à ce moment-là l'instrument de Dieu pour juger ses peuples perdus. On se souvient de Sodome et Gomorre, dans la même région, là où se trouve la mer morte actuellement, qui avaient également été anéantis autrefois par Dieu parce qu'ils avaient atteint le comble de leur péché. Et c'était pour des motifs semblables. Mais là, il n'y avait pas eu d'intervention humaine. C'était Dieu directement qui était intervenu. De la même manière, plus tard, Israël subira également des jugements divins exercés par des peuples au moyen de peuples étrangers, les Assyriens, les Babyloniens, les Grecs, les Romains, sans toutefois être exterminés, car Dieu ne se repent pas de ses dons, de son appel et de ses promesses envers Israël. Tous ces peuples que je viens de citer et leurs empires ont disparu, mais Israël demeure. La Bible, en particulier les prophètes et l'Apocalypse, nous annonce que la fin des temps ne sera pas non plus une partie de plaisir pour beaucoup de peuples et de nations, et que bien des jugements restent encore à venir. Voilà pour les trois questions que posait ce chapitre, je trouve. Passons maintenant aux deux enseignements que j'ai choisi de noter et de nous partager. D'abord, la façon dont Rahab et sa famille ont été concrètement sauvés. Les espions avaient dit, Rahab, garde le secret et attache un linge écarlate, c'est-à-dire rouge, à ta fenêtre. Et tu seras épargné, toi et toute ta famille. Je viens d'évoquer l'esclavage du peuple hébreu en Égypte et sa sortie après 400 ans de servitude. Cette délivrance ne s'est pas faite n'importe comment. L'Égypte a été jugée pour le mal qu'elle a fait aux Hébreux. Et une nuit, un ange exterminateur est passé sur toute l'Égypte et a exterminé tous les enfants premiers-nés qui vivaient dans ce territoire. Tous ? Non. Car certaines maisons avaient sur leurs linteaux et poteaux extérieurs des traces de sang, le sang d'un agneau qui avait été sacrifié à cet effet. Dans ces maisons, les premiers-nés ont été épargnés. C'est le même processus qui se reproduit ici à Jéricho. La destruction va passer, mais le chiffon rouge à la fenêtre de Rahab va rappeler ce sang de l'agneau qui a été versé, ou qui sera versé, selon de quel agneau on veut parler, celui de Pessah ou celui de Pâques, afin que ceux qui sont dans la maison soient épargnés. On verra dans les chapitres suivants de Josué que la muraille entière de Jéricho va s'effondrer au son du chauffard. La muraille entière ? Non. La maison qui porte le linge écarlate va résister et va rester debout. Alléluia. Alors pour nous, pour toi ce matin, est-ce que les murs de ta vie, est-ce que les murs de ta maison, de ta famille portent le signe du sang de l'agneau ? Est-ce que tu as ce linge ? Vous savez, pour certaines certains dons, certaines actions, on met un petit truc rouge là. Eh bien, sur nos cœurs, c'est un petit peu ça. Il faut qu'il y ait le chiffon rouge. Si ce n'est pas encore le temps, ben, c'est aujourd'hui. Si ce n'est pas encore fait, c'est le temps de le réparer aujourd'hui. Et justement, le deuxième enseignement que je tire de ce texte de Josué 2, c'est comment d'une femme étrangère et de mauvaise vie, qui était Rahab, Dieu va faire une princesse dans son peuple. Car Rahab n'est pas restée étrangère et pécheresse. Elle s'est convertie au Dieu d'Israël et elle est rentrée dans le peuple d'Israël. La généalogie du Nouveau Testament nous montre comment Rahab est par la suite devenue l'arrière-grand-mère du grand roi David. Cet homme selon le cœur de Dieu, ce précurseur du Messie. Elle est donc entrée dans la lignée royale et messianique qui, quelques siècles plus tard, verra la naissance d'un certain Jésus de Nazareth. Quel destin incroyable que celui de cette femme. Mais comment ça s'est produit, ce changement ? On l'a lu. Comme tous les Cananéens, Rahab était épouvantée à l'approche des Israélites. Et de ce qu'elle savait être un jugement de Dieu. Mais il y avait quelque chose de plus fort que sa peur. C'était sa foi. Cette femme méprisée va pourtant confesser une foi étonnante. Au verset 11 qu'on a lu, elle déclare « C'est aussi que l'Éternel, votre Dieu, est Dieu en haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre. » Elle, la cananéenne, l'idolâtre, la courtisane, la femme à l'esprit large, peut-être avec peu de scrupules pendant un temps, elle a compris que le Dieu d'Israël, l'Éternel, votre Dieu, est Dieu en haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre. Savez-vous qu'il n'y a que deux autres personnes dans la Bible qui ont prononcé cette même phrase ? Ces deux personnes, c'est Abraham et c'est Salomon. Excusez du peu. Trois personnes dans la Bible citent cette phrase. Abraham, Salomon, Rahab, la prostituée. Et sa foi, outre cette belle confession de la bouche, l'a amenée dans l'action concrète. Elle ne s'est pas contentée de dire « je suis croyante, prenez-moi avec vous », etc. Non, elle a fait ce qu'il faut pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Au péril de sa vie, elle a caché les espions et elle leur a permis de s'échapper. Oui, au-delà de sa peur, cette femme avait compris que si l'Éternel était un Dieu qui ne considère pas le coupable comme innocent, il est aussi un Dieu de grâce, qui ouvre la mer pour libérer son peuple. Il est aussi un Dieu capable de compatir et de sauver. Et son choix, Rahab, ce jour-là, vraiment ça a été le bon choix. Un choix qui a changé la destinée de sa vie. Jésus lui-même le dira plus tard, des prostituées devanceront beaucoup de gens dans le royaume de Dieu. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ce passage des Écritures, pour l'exemple de cette femme, pour l'appel que tu nous adresses aussi à nous tenir comme elle, dans la foi, non dans la crainte, dans la prière, mais non dans la surprise par rapport aux événements qui se passent, dans le désir de rentrer dans tes plans. Et nous aussi, tu es venu nous chercher comme des pécheurs là où nous étions. Et nous aussi, tu as fait de nous des princesses et des princes. Seigneur, merci pour cette grâce infinie. Merci pour ton amour. Merci parce que, comme on l'a chanté, tu nous permets de relever la tête et de regarder, d'attendre avec foi, avec joie, la venue de Jésus qui approche. Merci pour ton amour. Et je te prie de mettre dans nos cœurs cette force, ce courage qu'a eu cette femme pour braver le roi, pour aller contre le courant, pour aller, même dans son cas, jusqu'à user de dissimulation pour faire ce qu'il fallait pour cette question de vie ou de mort. Père, oui, fais de nous des hommes et des femmes de Dieu forts, solides, convaincus et qui avancent. Amen.